Bonjour, l'émission La Voix des Poètes, Claire Demange. J'accueille pour la deuxième fois donc Chantal Dupuy-Dunier, bonjour.
Bonjour.
Et nous allons consacrer encore cette émission à Éphéméride, hein, donc un poème par jour. Hein, et où donc on avait dit la semaine dernière que l'écriture était qu'un aiguillon nécessaire à la vie. Hein, et cette conception était partagée par votre mari, qui est aussi écrivain. Et vous écrivez donc le 11 juin. La tête appuyée au creux de ta main gauche, tu écris dans la cour sur tes genoux, toi aussi pour l'utopie. Des cailloux maintiennent, contre le vent du soir, tes feuillets déjà remplis, posés sur la table voisine. Derrière toi, la colline arbore son relief d'ombre dans le jeu du soleil couchant. Alors lui aussi écrit avec cette même motivation ?
Enfin, oui, et puis avec d'autres aussi. Oui. Mon mari, Denis Langlois, est essayiste, romancier, oui. Et il a écrit depuis plus longtemps que moi. Il écrit aussi pratiquement tous les jours. Et il a cette conception aussi de ce que peut avoir d'éphémère la portée de notre écriture. Et aussi, il y a chez lui beaucoup d'écrits en rapport avec le désir révolutionnaire, le désir de changer la société. Oui. C'est un homme engagé. C'est pour cela que je parle là d'utopie, parce que il en est à voir à l'heure actuelle ce désir de révolution comme un aiguillon de la société, mais il constate que c'est le genre de chose qui peut être très difficile, vu la nature humaine, à réaliser. Mmh. D'où des écrits aussi sur l'utopie.
Voilà. Alors, vous dites aussi dans Cerise Presse, pour vous, l'utopie serait presque réalisable dans le poème. Le poème lui-même est utopie, essayant d'arrêter l'éphémère.
Oui, c'est le lieu que l'on pourrait assigner à l'utopie. Ça serait le poème lui-même.
Je vais lire le poème le poème du 8 mai, hein, où vous arrivez quand même bien à lutter contre l'éphémère dans la vie de tous les jours. Il faudra semer les laitues au sang blanc, les frisées généreuses et répandre tout autour la cendre du poêle contre la gourmandise des limaces.
Oui, oui,
dans le concret, on est dans le...
Oui, oui, j'y arrive en fait fort bien. Et là, effectivement, de même dans le poème qui concernait Denis tout à l'heure, on est dans des choses très concrètes. On est dans la nature. Il y avait tout à l'heure ces feuillets qui étaient sur la table à l'extérieur, oui. Tenus par des cailloux parce qu'il y a un peu de vent. Oui. Etc. Enfin, il y a toutes les descriptions aussi quand on fait des confitures, le poêle à bois, toutes ces choses-là qui ancrent une vie dans un certain quotidien.
Oui. Alors justement, donc le temps des semences là, hein, donc se relie au fil conducteur d'Éphéméride, hein, qui est en rapport avec le temps. Alors, on va parler un petit peu, donc on a parlé du temps d'écrire tout à l'heure, on va parler un petit peu du temps quotidien vécu, hein, on va l'explorer, hein, alors avec plusieurs épisodes, et avec toujours, hein, cette recherche du sens. Alors, j'allais au 25 avril, par exemple. Ça, on s'ennuie pas avec ce livre, hein, donc si c'est vrai.
Bon,
que,
merci.
Il y a toujours quelque chose, un nouveau poème à découvrir, une nouvelle journée à commencer. Hein.
Non, mais ça prouve d'ailleurs que je ne m'ennuie pas dans la vie.
Donc voilà, ce qui nous pousse aussi à continuer et à persister. Hein. Chaque jour, attentif à veiller le levain, dans la panière de nos paumes, tu donnes sens au seigle, à sa chaleur humide.
Oui, là on est dans un poème discrètement érotique. Et puis effectivement, ce qui donne sens à la vie, je l'ai dit la dernière fois dans la précédente émission, ce sont les autres... ceux que j'ai appelés effectivement les autres meuniers de passage, ou que j'appelle aussi parfois les compagnons du radeau. Et donc, de façon privilégiée, l'autre que l'on aime, bien entendu.
Oui. J'avais pas vu de tonalité érotique dans ce poème. Mais
c'est discret, mais...
Ah, il y en a
des
vu non,
dès qu'il s'agit d'amour.
Oui, ben non, je pensais vraiment là, donc au travail un petit peu donc du boulanger, oui. Donc.
On y met les mains, on pétrit, oui, c'est oui. Charnel. Enfin,
ah oui,
toutes
d'accord.
Ces choses-là oui. Sont assez sensuelles, en
oui.
Fait.
Oui, effectivement, oui, mais donc c'est vrai que j'avais pensé au temps du quotidien vécu, hein, donc Voilà, un autre d'ailleurs. Hein. Sur le calendrier de l'escalier infini, un autre oiseau est venu ce matin inscrire le visage du sud, où janvier parlait de bourgeons, frémissement d'îles, un long désir de cargo, d'étranges pollens aux plumes, j'écris avec des mains de graines. Donc un oiseau qui vient et qui vous fait partir, qui vous fait rêver, qui vous fait découvrir d'autres paysages.
Oui, puis c'est certainement un migrateur, donc oui. Il y a toute cette dimension-là et ce qu'il peut apporter avec lui de ses voyages, toute la dimension de circulation aussi bien des oiseaux, ce qui m'a toujours fascinée, que éventuellement des poèmes.
Moi, je disais que donc cet oiseau donc s'ouvrait sur l'infini et il s'ouvrait aussi sur le temps de l'écriture, puisque il va partir et vous écrivez avec des mains de graines, vous allez semer.
Hein, tout
donc,
à fait.
Voilà. Mais un tout petit extrait encore de musique pour illustrer donc ce poème d'évasion. Du quotidien, hein. Vous écrivez, vous êtes à l'écoute de la nature et vous parlez aussi dans ce Express de votre œil photographique, hein, qui vous permet aussi donc de bien observer et de bien retranscrire les scènes. Alors, vous avez un œil photographique.
J'ose dire cela, mais je ne dois pas être la seule.
Oui.
Disons que c'est peut-être le sens du regard qui serait le plus développé. Parmi les sens que j'utilise pour écrire. Ça avait même laissé croire à Darla Imlès que j'avais peut-être, elle plaçait beaucoup d'espoir en moi, que j'avais peut-être des talents artistiques, ce qui n'est pas du tout le cas.
Qui vous avait dit ça ?
Darla Imlès, celle qui justement a fait l'interview pour Cerise Press.
Ah oui, d'accord. Alors je lis justement, le lilas pâlit jusqu'aux gris fragiles. Le parfum déjeuné pénètre les pièces, s'impose, fauve transpiration sous les aisselles du paysage, sature les rêves de la nuit. Donc là, il y a l'œil photographique, et puis il y a aussi le sens de l'odorat.
Oui, là, tout à fait, dans ce poème, oui.
Donc, alors vous dites, je vais en lire un autre, peut-être du 28 mai, par exemple. Alors là, il y a l'œil photographique, il y a aussi Louis, tant des traversées et des essaims, une abeille vrombit autour des fleurs. Sur son corps, les langues des iris projettent leur fourrure sombre. Ses ailes tracent dans l'air la vibration obstinée du voyage. sur son corps, les langues des iris projettent leur fourrure sombre. Donc vous dites dans Sur Express que vous engrangez les images.
Oui, ben c'est ça, l'œil photographique associé à la mémoire, avec bien sûr une utilisation des cinq sens pour la création des images poétiques, même si souvent je remarque que je privilégie le regard.
Le regard encore là. 30 mai, ce matin, la maison, un volet ouvert, un volet fermé, cligne de l'œil au soleil. Sur le muret, silhouette préhistorique, un lézard vert à gorge bleue nous fixe de son regard rond. La vipère n'est pas loin.
Et oui, il faut avoir vécu au fin fond de la Haute-Loire pour ou au fin fond d'une autre campagne pour avoir dans son quotidien les lézards verts et les vipères. Les lézards verts, il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent connaître, sont de très jolis animaux. Je crois que c'est le mâle qui a la gorge turquoise. Et ils ont un regard très fixe quand on passe près d'eux. Je dis la vipère n'est pas loin parce que en général, là où il y a un lézard vert, il y a aussi des vipères. Et il est arrivé que, évidemment, on en ait quelques-unes, même devant la porte.
Alors, donc, le quotidien aussi, ça peut être aussi le quotidien intime, hein, que vous mêlez aussi toujours avec cet œil photographique. 27 mai, tu psalmodies mon nom, ses consonnes intimes et sa voyelle d'aube. Je décline le tien, ses ouvertures et l'éclat de son rire. Flux et reflux des mots, un vent chaud anime la peau du rideau, courbant les tulipes de satin, les draps reposent sur le sol. Donc,
Oui, là on est dans le poème érotique, un peu moins discret que l'autre.
Voilà, mais toujours dans une sorte de quotidien aussi.
Oui, tout à fait, c'est... C'est concret, c'est le quotidien.
Voilà, alors le 3 juin aussi. Télégramme sonore, deux hirondelles passent en trissant au-dessus de nos têtes. La pluie viendra ce soir remplacer l'arrosoir. Elle réveillera l'odeur des plants de tomates, rassurera les boutures et multipliera l'herbe. Nous devons endiguer l'invasion du trèfle blanc aux tiges drues et couchées. Donc, très observatrice, hein, très à l'écoute, très... proche de... C'était à Cronce, ça, c'est un souvenir de Cronce aussi.
Oui, tout à... Enfin, dans Éphémérides, la plupart des poèmes ont été écrits à Cronce, où nous vivions, et il y a quelques déplacements, donc on va trouver quelques passages qui se situent à Clermont, et quelques passages qui vont se situer, je crois... au Mans, à Rouen, enfin, selon les déplacements que nous avions à effectuer cette année-là.
Alors, donc au quotidien, vous vous ouvrez à la nature, vous pénétrez du monde animal et végétal, peut-être encore pour mettre votre marque sur le temps, en inscrivant ce que vous voyez, ce que vous entendez dans votre esprit, et en le couchant sur la page.
Je ne sais pas, au fond, si c'est moi qui mets ma marque sur le temps. Je tente de mettre ma marque sur le temps. C'est plutôt lui qui met sa marque sur moi.
Oui. Oui, mais donc en disant que vous persistez, c'est bien parce que vous voulez aussi mettre votre marque sur le temps aussi.
Je persiste à laisser des signes.
Oui.
Que d'autres verront peut-être.
Vous employez aussi le mot geste, je crois.
Oui, ben, dès le début d'ailleurs dans l'éphéméride. Oui. Je dis ce qui fonde le poème est toujours le geste.
Je vais le lire ce poème d'ailleurs. Ce qui énonce le poème est toujours le geste. Aujourd'hui, celui offert par le passage d'un oiseau, brièveté dans la texture même des feuilles, entre lignes et nervures, sillage, comme aux marches d'un phare, les pas du dernier gardien, sable serti dans les angles du granit. Le geste, le signe ?
Le signe et le geste. Le geste étant aussi quelque chose d'inhérent en tant qu'action. À la poésie, puisque le mot de poésie vient d'une étymologie grecque qui signifie agir.
Bien.
Il y a du mouvement dans tout ça.
Donc du quotidien à la nature, à l'homme, hein, tout fait partie de son histoire, de son présent, de son devenir. Hein. Et tout est bon finalement à noter, à observer et à retranscrire. Hein. Le 4 juin, vous écrivez « Le mur du four à pain a cédé sous les coups de l'averse. Pierres et terres se mêlent aux hautes ombelles et aux pousses de prunelliers pour obstruer le sentier qui conduit au ruisseau, ainsi les murets, ainsi les chemins, ainsi les hommes.
Oui, toujours le même constat, mais qui effectivement n'est pas triste. C'est un constat, c'est tout. Et qui est intégré d'ailleurs d'emblée dans le poème, donc il en devient peut-être encore un peu moins triste.
Oui, c'est-à-dire que nous sommes comme ce mur qui va s'effacer.
Voilà, ni plus, ni moins.
Alors donc, maintenant je vais passer à un autre petit chapitre que j'ai intitulé « Le temps du présent, de l'instant ». C'est-à-dire que vous allez prendre des scènes sur le vif. Toujours, enfin donc, pour bien profiter, pour bien mettre votre marque sur le temps. 8 août, un busard fond sur le nid de rouge-gorge, au pied du merisier. La couleur des gorges s'intensifie. Donc c'est un moment bien précis que vous saisissez là.
Oui, un moment cruel, enfin cruel, le busard a faim. Y a-t-il de la cruauté là-dedans? Je n'en suis pas certaine, mais dans l'action qui s'ensuit pour qu'il satisfasse sa faim, il y a, vu de l'extérieur, une cruauté.
Oui.
Et quand on vit à la campagne, on est plus près de tout cela, on assiste à tout cela.
Mais c'est saisir ce moment-là qui était important aussi.
Oui, toujours, c'est l'œil.
Oui, oui. C'est important de l'écrire, on peut le saisir, se dire je vais l'écrire et ne pas l'écrire.
Ah, il y a certainement des choses que j'ai saisies et que je n'ai pas choisi d'écrire. J'ai fait ma sélection dans la journée. Il y avait certainement dans chaque journée plusieurs choses et j'ai gardé celles qui me marquaient le plus et qui aussi, rentraient comme une note de musique dans la grande partition d'Éphéméride. Voilà, qui avait sa place, qui pouvait correspondre à quelque chose que j'avais peut-être déjà évoqué. Enfin, c'est tissé d'un tas de fils rouges.
Oui. Et donc, est-ce que vous êtes à l'affût aussi? Est-ce que vous êtes... Oui.
Oui, oui, je suis toujours en train de guetter et il y a beaucoup de choses qui font signe.
Oui. Eh bien, ici, par exemple, le 9 août, assis sur les marches, nous guettons, dans la nuit d'août, l'éclosion d'une étoile filante près de la Voie lactée. Chacun fera un vœu. Nous ne le dirons pas, mais ce sera le même.
Oui, c'est l'époque des Perséides, aux alentours du 15 août, un petit peu avant. Et là-bas, à Kronce, on avait la chance d'avoir un ciel plus facile à observer qu'en ville, plus dégagé. Et ce soir-là, je me souviens, nous avions vu la plus belle étoile filante que je n'ai jamais vue de ma vie. Bien qu'étant enfant, j'en avais vu d'autres parce que mon père m'apprenait la carte du ciel. Et ça, c'est un souvenir fantastique.
Quand vous dites « ce sera le même », le vœu, ce sera le même.
Oui, parce que quand on aime quelqu'un, on pense que l'autre va forcément faire le même vœu que vous. Mais nous ne le dirons pas, parce que si nous le disons, il ne se réalise pas d'après ce qui est dit.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors donc justement, l'instant magique, donc à l'affût de l'instant magique, donc le 9 novembre, vous y étiez. Et donc c'est aussi l'instant magique, c'est le moment aussi où vous allez peut-être écrire le poème. C'est au détour d'une route de nuit qu'un poème se donne, fragile, dans les yeux d'un troupeau de biches, qui scintille devant les phares de la voiture, à la hauteur de Kronce-l'Orbe.
Oui, là c'est aussi encore bien sûr quelque chose de très concret, et là visiblement le poème n'est arrivé que le soir, il s'est donné tardivement, ce qui a dû provoquer pas mal d'anxiété chez moi.
Pourtant vous dites c'est au détour d'une route de nuit qu'un poème se donne, on a l'impression qu'il s'est donné tout de suite.
Oui, mais le soir, en le rentrant. Soir. Effectivement, nous revenions de Langeac. Il y avait 20 km à faire et on est obligé sur ces routes-là de rouler plein phare, ce qui attire forcément les animaux. Et il y a beaucoup de cervidés, de biches. Il y avait effectivement des troupeaux de 8 ou 10 biches que l'on voyait le long de la route dans le champ voisin. On voyait les yeux phosphorescents.
Mais là, on a l'impression que vous l'avez, que c'était presque instantané.
C'est un peu instantané, oui, parce que ça apparaît très, très rapidement, effectivement, au détour de la route.
Donc là aussi, le 26 novembre, donc quelque chose qui vous a un petit peu poussé à écrire. Ce matin, le soleil s'est levé bleu entre le plateau, là-bas, notre falaise imaginaire, abrupte, au-dessus de la ville, et les franges nocturnes, encore à la dérive, au-dessus des immeubles. Ça a été écrit en ville, alors.
Oui, ça, c'est écrit vraisemblablement à Clermont.
Oui, Donc, ce qui vous a frappé, c'est ce soleil qui s'est levé bleu.
Oui. Et oui, c'est écrit avec certitude à Clermont, parce que la falaise imaginaire, qui a disparu parce qu'on a construit un immeuble qui malheureusement bouche la vue de ce qui était notre falaise imaginaire, était un petit coin de ciel qui pouvait ressembler à ça et la mer à ses pieds. Question de regard là aussi. Oui.
On va écouter un tout petit extrait de toujours de Je suis resté homogène avec Éphéméride, avec le lac des Cygnes. Toujours ces moments donc privilégiés que vous notez, hein, qui peuvent aussi donc être conditionner l'atmosphère et l'humeur. Hein. Un peu de neige le 27 novembre. Un peu de neige a gommé la couleur des jardins, la consistance des toitures. Le monde est devenu mou. Il fond, rigole grise jusqu'au caniveau. Donc là, d'un petit détail, vous êtes partez, vous avez créé une atmosphère.
Oui, j'ai retranscrit, disons, l'atmosphère. Que je vivais, que je ressentais, oui. Mais là-bas aussi, on était évidemment beaucoup plus sensible au rythme des saisons qu'en ville. Bien sûr que les saisons, on peut les observer en ville aussi, mais on y est certainement un peu moins sensible que quand on est au plein cœur de la campagne. Et la neige en particulier... Clermont, il arrive bien sûr qu'il neige, mais ce n'est pas en général spectaculaire, ou alors c'est exceptionnel. Alors qu'à Crance, on pouvait être bloqué pendant 10 jours par la neige. Donc on trouve beaucoup en hiver dans Éphéméride de poèmes qui se rapportent à la neige.
Alors donc, encore une petite scène donc craquante, hein, là, le 3 décembre, hein, donc toujours dans ce temps du quotidien vécu. Hein. Vêtu de sa pelisse d'hiver, le matou noir semble plus gros. Il vient lécher le beurre posé sur une assiette. Chat et neige, tableau domino. Les oiseaux, en un orac épais, se pressent autour de la mangeoire, suspendue au lilas, en avril. Des graines tombées germeront dans la cour, avoine et tournesol. On part d'une scène et on va vers l'avenir.
Oui, oui, ce sont encore les graines, là, oui, les semences.
Les semences, les graines, oui. Alors donc, ce temps de l'instant, hein, est aussi intimement lié à celui de la mémoire, hein, car le temps est l'enfant du passé, c'est vous qui l'écrivez, indélébile, hein, temps de la mémoire et de votre enfance, hein, et survivance qui porte l'histoire de votre grand-mère, ou survivance que porte l'histoire de votre grand-mère. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette grand-mère qui apparaît souvent dans
Alors,
ce...
Il y a deux grand-mères.
Oui, grand-mère des villes, la grand-mère des champs.
Voilà, celle que je nomme ainsi. La grand-mère des villes vivait, elle a vécu en différents endroits, mais toujours dans des villes, et notamment elle a vécu à Paris. C'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens. Elle était serveuse dans un bar pendant fort longtemps, mais qui avait quand même une vie très différente de celle que j'appelle ma grand-mère des champs, qui vivait, elle, dans la plaine du Luberon. Si elle revenait et qu'elle voyait ce qui est devenu le Luberon et sa maison, je crois qu'elle n'en reviendrait pas. Elle avait une vie très, très pauvre, dans une ferme où le confort était vraiment rudimentaire. Et ces deux grand-mères que j'ai chéries l'une comme l'autre étaient très différentes et très complémentaires. Pour moi, c'était une richesse, leur transmission à l'une comme à l'autre était une grande richesse et j'ai entrecroisé effectivement ce passé avec ce que je décris du présent dans Éphéméride.
Alors 13 septembre, ma grand-mère des villes m'achetait des pommes d'amour à la foire du trône. Incisives, en taille croquante, caramel rouge et des sucettes torsadées dont la pointe s'émoussait sous la langue de l'enfance. On garde toujours le goût du sucre.
Oui, j'ai dû rester très enfant.
Non, mais c'est bien, oui.
Parce qu'effectivement, la nourriture est pour moi quelque chose d'important. Il y a des gens qui sont moins sensibles à ça. Et la gourmandise est aussi quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ça n'est pas si éloigné que ça de l'écriture de la poésie, parce qu'il y a une gourmandise à, notamment à passer les mots en bouche et à les dire, d'ailleurs, vous qui les dites aussi à haute voix et fort bien, voilà, on sent ce passage en bouche, c'est quelque chose de très concret aussi, de gourmand. Quand je vais d'ailleurs dans les écoles, parfois, je dis souvent aux enfants, la poésie, c'est comme un bonbon, justement, ça se déguste. C'est quelque part, ça peut être sucré, sucré, attention, pas au sens dévalorisant, sucré comme porteur de quelque chose de bon au goût.
Alors, un petit peu plus triste sur la grand-mère, hein. Le 17 février. Mamie est morte au mois de février. Le carnaval déroulait son cortège, juste devant l'hôpital. Un squelette rythmait la samba en cognant les pavés avec le manche de sa faux. Ma grand-mère de Beaunieu est partie en automne, devenue légère, feuille parmi les feuilles. Donc, c'est la grand-mère de la campagne. C'est la grand-mère.
Beaunieu, c'est celle de la campagne.
Alors, donc. Indépendamment des souvenirs donc, de la grand-mère, des souvenirs d'enfance qui sont récurrents aussi, donc temps de la mémoire. Hein. Alors je vais en lire quelques extraits donc, avant de terminer l'émission peut-être. Par exemple, 7 mai, vous parlez de votre enfance, à Beaunieu. Lent effeuillage du calendrier mural. À Beaunieu, enfant, je grimpais sur une chaise paillée, jaune, au coin tressé de rouge, pour enlever la peau si fine du jour. Ma grand-mère traduisait. 10 jours, 10 vents, 10 manches, le 10 des planètes, et me lisait sous le dessin l'histoire drôle que souvent je ne comprenais pas, mais qui imprimait sur le tracé de la journée sa marque énigmatique. Puis elle regardait la petite lune, autre signe, rond ou accent, pour le jardin. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ?
Oh ben là, on est carrément dans ce qui pourrait être le poème fondateur du livre, puisqu'il s'agit.
Les feuillages du calendrier.
Voilà, les feuillages du calendrier mural, calendrier que beaucoup d'auditeurs connaissent, puisqu'il s'agit de ces calendriers qui comportent des dessins avec des blagues. Mmh. Et je n'avais pas l'âge de comprendre les blagues. Sauf peut-être certaines très, très accessibles, mais c'est quelque chose qui me fascinait.
Alors des souvenirs pittoresques encore. 10 mai, tous les jours, elle vaquait aux travaux de la terre, petite silhouette en tablière à fleurs, chignon clair, resserré dans une résille aérienne, sourire au bord des larmes, tremblotant au coin gauche des lèvres, à cause du grand-père parti avec une autre, et de L.D., le fils, disparu si jeune. Il restait le Guy, mon père. Pour nous, elle souriait. Le cimetière porte couronne de cèdres. De là-haut, on voit la ferme dans la plaine, au pied du Luberon. Donc, il y a toute une histoire de famille, là.
Tout à fait, oui. Il y a toute l'histoire familiale, finalement, dans ce poème. Et avec L.D., je fais référence à un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle « Initial ». C'était des initiales gravées sur le mur de la ferme par justement LD, qui était le frère de mon père et qui est mort très jeune d'un cancer.
Alors une autre petite anecdote aussi, quand nous venions pour les vacances, le premier jour, elle tuait un pigeon, ouvrait un bocal de petits pois, posait le plat ovale noirci sur le braisoir près de l'âtre. L'odeur du thym se répandait dans la pièce au plafond bas. Chair brune, goût sauvage, pigeon voyageur dans les souvenirs, porteur du message familial.
Oui, et puis oui, tous ces souvenirs aussi, effectivement, gustatifs, ce sont des madeleines de Proust.
J'aime bien aussi le côté réaliste, hein, le plat ovale noirci. Oui. On voit bien qu'elle a dû faire cuire et recuire.
Il a servi beaucoup, et nourri avec beaucoup d'amour les membres de la famille.
Alors, donc ça reste dans votre mémoire, hein, mais quand même... le présent a tendance aussi à effacer la mémoire et le temps. 13 mai, vous écrivez, et on terminera cette émission là-dessus, « Les maisons passent de main en main, d'histoires en histoires, jusqu'à l'avènement des ruines. Curieusement, on les nomme demeures. » Ça, c'est très très joli paradoxe, et c'est très très bien dit. Hein. Voilà.
C'est un paradoxe de notre langue, effectivement.
Oui, un paradoxe de notre langue, oui. Mais on y demeure aussi un certain temps.
Un certain temps.
Voilà. Écoutez, nous allons terminer l'émission sur ce 13 mai. Nous allons poursuivre la semaine prochaine. Alors, on va repasser un petit extrait de Tchaïkovski, le dernier par exemple. Donc merci beaucoup Chantal d'être avec nous. Donc c'était La Voix des Poètes, Radio Altitude. Merci.
Merci.